OK, alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle François Aubry, je suis professeur en travail social à l'Université du Québec en Outaouais. C'est une présentation que je fais avec deux autres personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais on a travaillé ensemble sur cette présentation, donc ils sont présents quand même avec moi. J'aimerais vous amener en fait sur une réflexion autour du métier au Québec qui s'appelle le métier de préposé aux bénéficiaires, qui est l'équivalent du métier d'aide-soignante en France. C'est un métier sur lequel je travaille depuis de nombreuses années et qui a donc un nom spécifique au Québec, préposé aux bénéficiaires, et notamment considérer ou en tout cas réfléchir à quelque chose de particulier pour ces préposés, c'est l'usage fréquent de la notion de vocation qui est utilisée par les préposés souvent pour expliquer leur choix professionnel. C'est quelque chose que j'ai vu dans plusieurs recherches que j'ai pu mener. L'idée que, plus précisément, il faut avoir la vocation pour faire ce métier-là. Il la faut, la vocation. C'est quelque chose qui a déjà été démontré ailleurs. En France, Anne-Marie Arborio a déjà travaillé sur le sujet, l'a démontré, Christelle Avril pour les aides à domicile. Mais ça m'intéressait d'autant plus qu'au fur et à mesure de travailler autour des préposés aux bénéficiaires, les gestionnaires ou les agents administratifs en gestion qui recrutent les préposés disaient aussi on cherche des vocations pour faire ce métier-là. Donc c'était quand même particulier de voir qu'il y avait un usage croisé et commun de la notion de vocation pour expliquer ce métier-là, ou en tout cas ce choix professionnel-là. Donc je voulais savoir qu'est-ce que cache cette notion de vocation en allant interroger le processus par lequel donc on devient préposé aux bénéficiaires. C'est ça qui m'intéressait, essayer de voir comment on le devient, quelles sont les étapes qui font en sorte qu'on devient préposé. Utiliser un petit peu une grille relative à l'interactionnisme symbolique, c'est-à-dire à la construction d'identité professionnelle, pour aller voir où est-ce qu'on peut trouver éventuellement des enjeux relatifs à l'intersectionnalité, en émettant l'hypothèse que derrière la notion de vocation se cachent des enjeux ethniques, de genre, de classe et peut-être même d'âge, c'est-à-dire que la vocation cache une sélection qui est teintée par ces facteurs-là, mais pas seulement. Pas que ces compétences-là, c'est-à-dire pas que l'idée qu'il y a des compétences naturalisées qui seraient automatiquement ou naturellement le fait de femmes majoritairement de provenance ethnique comme haïtienne, précarisées. Aussi l'idée que ce type de personnes-là, de professionnels-là, sont plus naturellement, si on veut, évidemment c'est d'un point de vue critique, capables d'accepter des conditions de travail extrêmement difficiles, et c'est le cas au Québec comme d'ailleurs en France, c'est-à-dire un salaire quand même assez faible, et là je parle du secteur public, parce que je sais que dans le secteur privé c'est encore pire, une précarité d'emploi forte, des horaires de travail compliqués, et aussi une activité du travail, elle également complexe, c'est-à-dire une charge de travail lourde, une intensification de la charge de travail, des problématiques de santé au travail, et puis également un idéal relationnel qui est à la base de leur choix professionnel, mais qui est impossible à atteindre. Okay. Donc c'est ça que j'aimerais démontrer aujourd'hui. Alors, l'objectif de la communication est celui-là, c'est de vous présenter le processus complexe de la formation à l'intégration dans l'organisation gériatrique, c'est-à-dire l'équivalent de l'EHPAD mais au Québec, qui s'appelle le CHSLD, le Centre d'hébergement et de soins à longue durée, qui sont les centres d'hébergement pour cette étude-là qui est publique. Voir pourquoi la formation initiale ne suffit pas pour devenir préposé. Pourquoi est-ce qu'on dit pas pourquoi les gestionnaires disent pas on cherche des gens qualifiés, pourquoi ils disent on cherche des vocations? C'est qu'il y a quelque chose qui ne suffit pas dans la formation initiale, puis il s'agit d'aller voir ce que c'est et mettre l'emphase sur le processus de professionnalisation, c'est-à-dire le fait de devenir un acteur professionnel et non pas un professionnel dans un ordre protégé, mais voir un peu comment ça se passe, ce processus-là, en passant de la formation initiale puis l'embauche, puis l'orientation, et enfin donc le processus d'intégration. Je vais présenter ces phases-là. L'objectif aussi, c'est de voir pourquoi cette notion de vocation est quasi unanimement utilisée, et de montrer à quel point on a ici affaire à un lexique qui a déjà été démontré de naturalisation des savoirs et du choix professionnel, mais voir c'est quoi sa signification et comment elle est utilisée et construite tout au long du processus d'intégration et de sélection du personnel. C'est ça qui n'avait pas encore été beaucoup fait, je trouve, et c'est pour ça que je voulais présenter aujourd'hui cette communication. Alors, c'est un projet qui prend appui sur une étude en cours financée par le Fonds de recherche du Québec qui s'appelle Société Culture, dans lequel on allait interroger des préposés aux bénéficiaires et bon nombre d'employés et gestionnaires qui participent tout au long du processus de formation et de sélection à l'intégration des préposés. Petit élément de contexte, le vieillissement, déjà il y a un vieillissement de la population qui est très prononcé au Québec, un peu plus qu'en France, mais qui est quand même dans le même ordre d'idée, qui est que, dans le fond, dans les centres d'hébergement comme dans les EHPAD, il y a un besoin de préposés aux bénéficiaires pour pouvoir assister les résidents qui ont des pertes d'autonomie fonctionnelle fortes et importantes. Alors dans ce cas-là, les préposés sont indispensables. On dit que dans ces centres-là, c'est 90% de l'aide qui est donnée aux résidents. Que celles données donc par les préposés. Au Québec comme en France, il y a une forte limitation du financement des dépenses publiques. Le nombre de centres d'hébergement tend à stagner, il n'augmente pas. De même que le nombre de préposés, qui augmente un peu, mais pas tant que ça. Alors, dans ce cadre-là, on a quelque chose de tout à fait comparable. Et puis, pareil, une nouvelle gestion publique de plus en plus forte, c'est-à-dire un fort ratio de résidents par préposé, donc de plus en plus de résidents que les préposés doivent assister, mais des résidents de plus en plus en perte d'autonomie cognitive et ou physique, donc c'est-à-dire une charge de travail qui s'alourdit. Lié à ça, des normes de qualité de plus en plus importantes. Les fonctions des préposés aux bénéficiaires sont à peu près équivalentes à celles d'aide-soignante. Notez qu'au Québec, la fonction de préposé, c'est aide-soignante, mais il n'y a pas comme de typologie de statut ou d'emploi d'aide-soignante, comme ici AMP, aide médico-psychologique ou agent de service hospitalier. Là, il n'y a que des préposés aux bénéficiaires, et c'est tout, ou à peu près. Qui ont des fonctions relatives à l'aide à l'hygiène, à l'habillement, à l'alimentation, on les connaît. Pas d'activité médicale, ils n'ont pas de fonction médicale, à part quelques délégations de tâches, mais très restreintes, mais ils sont sous la responsabilité d'infirmières, auxiliaires et d'infirmières, donc d'une équipe de travail médicale, qui sont responsables de ces activités médicales-là. Fait intéressant, au Québec, pas de diplôme légalement obligatoire. On sait qu'en France, le diplôme d'aide-soignante, il est obligatoire il existe et puis il est demandé depuis 1946, je crois. C'était d'abord le CAFAS, c'est devenu après le diplôme professionnel d'aide-soignante et maintenant le diplôme d'État d'aide-soignante. Là-bas, il n'y a pas d'obligation légale à avoir un diplôme de préposé pour être préposé. C'est réclamé par les organisations, mais ce n'est pas légalement obligatoire. Donc ça dit quelque chose de la qualification de ce personnel-là et de la reconnaissance, évidemment. Mais il y en a une donc, qui existe quand même, le diplôme d'études professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé. Pour les caractéristiques des préposés, je vais y aller rapidement. On sait que les préposés, c'est la catégorie la plus représentée dans les établissements gériatriques. La catégorie donc la plus importante en termes numériques. On dit qu'il y a 40 000 préposés dans tout le réseau public de santé et services sociaux. Pour avoir une pondération, il faudrait multiplier par 10, ça ferait 400 000 pour la France, et c'est à peu près ce qu'il y a comme aide-soignante ici. 65% en temps plein, 35% en temps partiel. Et c'est un des métiers où il y a le plus d'emplois à temps partiel au Québec. Évidemment, faible salaire, faible reconnaissance, grande invisibilité, on en parle peu ou alors on en parle mal, notamment dans les médias au Québec. Et il faut savoir aussi, c'est quelque chose qui n'est pas comparable avec la France, là-bas, il y a trois statuts différents. On peut être préposé à temps partiel occasionnel, à temps partiel ou à temps complet. Temps complet, c'est l'équivalent d'un CDI ici. Temps partiel occasionnel, c'est vous avez la capacité de travailler dans l'organisation, mais on vous appelle le matin pour remplacer quelqu'un qui est malade, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de particulier, où vous ne faites que des remplacements. Vous n'avez pas un poste fixe. Et temps partiel, donc ce qu'il y a au milieu, c'est le fait d'avoir un 2 jours par semaine assuré, et puis c'est à peu près ça. 2 jours par semaine, et après, on fait des remplacements. Métier largement féminisé, comme en France, environ 83%. Beaucoup d'ethnicité aussi dans le métier, à 20%, et surtout dans les grandes villes comme Montréal et Québec. Et puis aussi, quelque chose qu'on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais quand même, le vieillissement du personnel, l'âge moyen, qui est de 42 ans en 2007, il est de 43 aujourd'hui. Donc une grande majorité de préposés, donc de 45 à 64 ans, est un enjeu majeur d'attraction et de rétention important, parce qu'évidemment, beaucoup de préposés partent, quittent, et peu veulent faire ce métier-là. Donc, les caractéristiques sociales, on pourrait dire, de ce métier-là, c'est âge, genre, ethnicité et précarité. pour les différents processus d'intégration-formation. Alors, premièrement, ce que je veux mentionner, c'est que, comme je vous l'avais dit, il y a une formation initiale qui existe, qui n'est pas obligatoire, c'est le DEP, avec une formation qui équivaut à 750 heures, contre 10 mois en France, hein, qui équivaut à 1435 heures. Donc, c'est une formation plus réduite qu'en France, avec divers contenus relatifs à l'assistance aux personnes, et on connaît ces contenus, santé mentale, procédés en soins d'assistance, etc., etc. Ce qu'on sait, par contre, c'est que la formation initiale, en tout cas quand on l'analyse, elle peut avoir deux fonctions. Un rôle formel, on s'attend à ce que la formation initiale fasse en sorte que les nouveaux préposés ou les futurs préposés acquièrent des savoirs utiles, efficaces, pour assister les résidents. Mais on sait aussi qu'il y a un rôle informel, c'est un rôle, on va dire, de sélection des futurs préposés selon leur intérêt et selon certaines caractéristiques sociales. Alors, la caractéristique sociale primordiale, c'est que bien souvent, les personnes préposées qui vont entrer dans cette formation-là sont précarisées au départ. Et souvent, il y a une recommandation d'une instance ministérielle, on pourrait dire ça comme ça, qui s'appelle Emploi Québec, pour que des personnes précarisées, sans emploi, sans formation au départ, puissent se former dans ce métier-là, qui est peu onéreux. C'est une formation qui coûte environ 500 dollars, donc 350 euros. C'est une formation aussi facilement accessible pour les nouveaux immigrants, et donc il y a un enjeu ethnique très clair. Donc dès la formation initiale, il y a comme une sélection qui se produit à partir de critères de précarité et d'ethnicité. Après ça, l'embauche. Vous êtes formé, vous avez le diplôme, vous pouvez rentrer dans une organisation de santé publique. Et là, évidemment, c'est le service qu'on appelle dotation, ressources humaines, qui va gérer ça. Les recruteurs, les agents administratifs disent on choisit prioritairement ceux, j'ai mis ceux, mais c'est ceux qui ont la vocation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir vocation? C'est pas seulement le diplôme. C'est pas jugé comme une preuve suffisante de compétence pour ces personnes-là. D'ailleurs, ils le critiquent. Ils disent d'ailleurs que les centres de formation professionnelle doivent accepter tout le monde. Et finalement, il en sort de ces formations des personnes sans forcément beaucoup de qualité. C'est comme ça qu'ils le disent. Donc, il y a la perception d'un manque de main-d'œuvre de qualité. Finalement, on se rend compte qu'il y a une évaluation de critères informels qui se produit quand on les questionne, encore une fois ici. C'est-à-dire, premièrement, ils regardent s'il y a des expériences antérieures de le domaine. Est-ce que la préposée a été préposée ailleurs? On regarde si elles ont déjà travaillé ailleurs, c'est ce qu'elles nous disent. Souvent, ça nous dit qu'elle a accumulé de l'expérience intéressante. Donc déjà, il y a ce critère-là. Mais surtout, il y a le critère de l'âge. On sait bien que les plus âgés ont souvent quelque chose en plus, elles ont plus ce sens de la relation aux bénéficiaires, c'est-à-dire aux résidents. On va plus se tourner vers ces personnes-là. Elles le disent clairement. Ethnie, elles disent aussi que maintenant on se tourne beaucoup vers du personnel immigrant, surtout pour Montréal d'ailleurs, c'est pas mal plus facile de travailler avec eux, on dirait qu'ils l'ont naturellement. Et puis le genre, alors on priorise pas un sexe plutôt que l'autre, là ils s'avancent pas beaucoup là-dessus, mais après ils disent, on voit bien qu'il y a plus de femmes à leur place. Beaucoup d'hommes viennent nous voir sans savoir ce qu'ils vont trouver comme emploi et donc comme tâche. Là aussi, à l'embauche, on voit que même s'ils n'ont pas forcément le droit d'avancer ces critères-là, ils disent que ça se passe comme ça. Et finalement, ils ne font rien contre ça, ils ont besoin de main-d'œuvre. Et c'est comme à partir de ces critères-là, finalement, que la qualité va se déterminer, qualité de la main-d'œuvre. Une fois diplômé, une fois intégré, vous avez l'orientation. L'orientation, c'est une phase très intéressante. C'est le moment où la personne diplômée qui a été acceptée sur un statut très, très précaire va être encadrée par une préposée expérimentée qui, normalement, doit lui montrer le travail, lui montrer les résidents, lui montrer comment ça se passe. On s'attend à ce que ce moment-là soit un moment de reconnaissance tout simplement des résidents, du lieu de travail et du travail en général, de la pratique. Mais on se rend compte que là encore, il y a un rôle informel. On va juger la compétence des nouvelles à tenir face aux conditions de travail, c'est-à-dire à plus seulement savoir faire juste une assistance au bain, une assistance partielle au lit, ou en tout cas nettoyer la personne. Non, on va regarder si elle est capable de tenir surtout les rythmes de travail. Est-ce qu'elle va être capable de pouvoir le faire? Et tout en faisant preuve évidemment d'une sorte d'exercice corporel, c'est-à-dire de capacité à pouvoir mettre en application des savoirs relationnels, sans maltraitance évidemment. Puis, approuver ou émettre un avis défavorable ou favorable à l'entrée dans l'institution de la nouvelle. C'est ce que fait la préposée expérimentée qui est chargée de l'orientation. C'est elle qui va dire, non seulement elle travaille bien, mais elle travaille vite, alors on la prend. Et ça, elle va le dire au chef d'unité de vie, qui est l'équivalent du cadre de santé ici dans les EHPAD. Donc c'est accepter la charge de travail, et ça participe aussi du processus de recrutement. Enfin, il y a l'intégration. Et l'intégration, ça c'est aussi c'est très important. C'est l'idée d'obtenir un emploi dans un centre de santé public, c'est-à-dire un vrai emploi temps complet, équivalent CDI en France. Ça peut prendre très longtemps. Ça peut prendre jusqu'à 4 ans. 5 ans même. Et pendant 4 ans ou 5 ans, il faut accepter la précarité d'emploi. Et ça aussi, ce sont comme des facteurs qui sont très importants, à mon sens, dans l'idée de questionner l'intersectionnalité. On ne va pas seulement regarder, donc, enfin, en tout cas, on va mettre en lien les perspectives ethniques, les perspectives genrées et les perspectives de précarité avec l'idée que ce personnel-là va accepter la charge de travail, mais aussi la précarité d'emploi. Ce que disent les gestionnaires quand ils disent « on cherche des vocations », c'est aussi des personnes qui sont capables de pouvoir tenir sur ces rythmes de travail-là assez importants, sur cette précarité d'emploi également. Ce que nous dit donc la notion de vocation au départ, puisque tout le monde parle de ça, c'est qu'il y a une naturalisation du processus de professionnalisation, c'est-à-dire qu'on occulte tout ce processus-là pour dire qu'on va chercher juste une vocation. Et derrière cette vocation-là, on retrouve l'intersectionnalité donc ethnique, genre, précarité et même âge. Et on retrouve également la capacité d'acceptation des conditions de travail et de l'activité de travail difficile. Donc les attributs sociaux, on en a parlé, une excise corporelle qui ressemble à des compétences relationnelles de qualité, on va dire, et puis aussi une capacité à accepter la charge de travail et ses conséquences, notamment en termes de santé au travail. Il faut savoir qu'au Québec, le métier de préposé aux bénéficiaires est l'une des quatre professions les plus, on va dire, pas dangereuses, mais les plus à risque de problématiques de santé et de sécurité au travail. C'est-à-dire que les blessures, les troubles musculosquelettiques, les lésions professionnelles, les préposés aux bénéficiaires sont l'une des premiers métiers touchés par ces problématiques-là. De même aussi que pour les problématiques de santé psychologique comme la dépression. Accepter la précarité d'emploi, puis là je fais un clin d'œil à Louise Boivin pour la disponibilité permanente, hein, c'est-à-dire le fait que quand on est précarisé, en début de carrière, il faut accepter d'être sur des horaires complètement variables, travailler avec des équipes de travail variables, et ça c'est quand même assez important à mentionner, puis les conditions salariales qui sont assez faibles au Québec, quand on est préposé aux bénéficiaires, il y a 5 échelons salariaux, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on a terminé, on est au top de ce qu'on peut gagner comme salaire. Donc c'est quelque chose à mentionner. C'est donc cette vocation, la notion de vocation, un recours argumentaire, identitaire, l'idée de présenter sa trajectoire biographique comme un parcours continu, se dire toujours détenir des compétences et un goût pour le métier, c'est-à-dire naturaliser une compétence et se distinguer de ceux qui n'ont pas cette compétence-là, c'est aussi une forme distinction professionnelle, on pourrait dire. Une rhétorique de valorisation, surtout quand il faut accepter un métier difficile. Quand elles disent « ça prend une vocation pour faire ce métier-là », ça veut bien dire que ça prend du courage, et ça prend aussi beaucoup d'abnégation, et puis l'acceptation de ces conditions-là. Et puis aussi une difficulté, et c'est peut-être une question que je pose pour les présentations de demain, là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi cette notion de vocation-là rend complexe la difficulté à se mobiliser collectivement? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement déconstruire le rapport à la naturalisation des compétences et donc à la notion de vocation? En conclusion, le sens de la présentation aujourd'hui, c'était ça, c'était de mettre en lien finalement la question de l'intersectionnalité tout au long du parcours d'intégration, d'embauche des préposés aux bénéficiaires. Je suis à peu près sûr qu'on pourrait comparer avec ce qui se passe en France, on retrouverait des indices à peu près identiques, ou en tout cas des choses qui seraient assez convergentes. Les phases de formation, embauche, orientation, intégration font en sorte qu'on ne peut pas les considérer juste formellement, il y a aussi des éléments informels qui rentrent en ligne de compte et que l'intersectionnalité comme champ thématique peut nous aider à comprendre, et c'est ce que je voulais essayer de faire ici avec cette communication-là, et qui peut expliquer aussi le manque de mobilisation collective de ce groupe professionnel-là. Il se mobilise peu, un petit peu de plus en plus dans certains domaines, mais en tout cas dans le secteur public au Québec, j'ai toujours considéré que c'était assez faible, et cette lecture de la vocation peut donner des éléments peut-être d'information autour de ce manque de mobilisation. Merci.
Voilà, c'était parfait. Merci, on est tout à fait dans le temps, donc je vais